La première,
9h-10h,
le mug.
Élodie de Célis,
Xavier Van Bugenhout.
Il est 9h40, presque 41. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la première pour le mug avec bien sûr Xavier Van Bugenhout.
Oui.
Présent, ça commence bien cette classe. Michel Dufresne.
En pleine forme.
Voilà, très bon élève, Marie Franquinet qui est avec nous. Et ce matin, on se souvient tous de cette histoire atroce qu'on nous a racontée d'une famille pauvre qui abandonne ses enfants dans la forêt, mais dont le plus malin, le plus petit, a l'idée de semer des cailloux et des miettes pour retrouver son chemin. C'était bien sûr l'histoire du petit pousset de Charles Perrault. Nicolas Turon et Didier Balzo imaginaient un grand pousset, un pousset adulte, en proie évidemment à la perte de confiance et aux angoisses d'abandon. Didier Balzo est avec nous ce matin. Bonjour.
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 Alors vous co-signez, vous commettez en scène cette pièce que vous interprétez, dont vous dirigez également les marionnettes, pour les Royal Marionnettes. Alors c'est quand même un des pires contes pour enfants qu'on nous ait raconté. On était en plus censé s'endormir après ça. C'est pour ça que vous avez envie de vous en inspirer. Ça vous rappelait des souvenirs personnels?
Vous venez de me faire frissonner.
Mais oui, devriez me prendre dans la troupe.
Ça m'a renvoyé à mes angoisses d'enfant quand je l'ai entendu pour la première fois. Non, moi, ce qui à l'état d'adulte m'a interpellé, c'est comment est-ce que ce gamin, avec tout ce qu'il a subi, avec aussi le fait que les parents ne décident pas de l'abandonner sur les marches d'une église. Ils vont les perdre dans la forêt, au milieu des loups, où ils savent manifestement qu'il y a des ogres et des sorcières qui rôdent. Donc c'est pratiquement pas les abandonner, c'est presque déjà les assassiner. Moi je me suis dit, mais tiens, comment est-ce que Perrault peut prétendre qu'il soit émancipé, ce petit bonhomme C'est ce qui m'a donné envie de réécrire ce conte, oui.
Mais c'est vrai que c'est, en fait, le petit pousset, franchement, on parlait de la violence des jeux vidéo tout à l'heure en première partie d'émission.
C'est rien.
C'est rien, quoi. Ici, on a des massacres à la tronçonneuse, hein.
C'est quand même
ultra violent.
Oui, c'est terrible.
Ouais. Vous l'avez pas édulcoré, cet aspect-là, non plus. Moi, je l'ai vu avec des enfants, ce spectacle, et il tire une tête par moment. Je l'ai regardé, j'ai dit, oulalalala, c'est quand même des parties trash. Mais en même temps, vous avez ajouté énormément d'humour aussi, qui... Cet humour, il est là aussi pour désamorcer le côté terrifiant de l'histoire.
Oui, alors... C'est-à-dire que ce qui m'a aidé, c'est de me dire, cette histoire, c'est du passé, en fait. Mm-hmm. Dans l'histoire du pousset adulte que j'interprète, il ne peut pas être question qu'il revive son histoire et que
Il y a une certaine distance, quoi.
Voilà, et que je la rejoue comme si c'était en train à nouveau de m'arriver. Donc la distance, elle se fait par le fait qu'il a, il reçoit la visite de spectateurs dans sa cabane et que, je dirais presque comme entreprenant une petite psychanalyse, il décide de raconter son histoire au public. Et donc ça met de la distance. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que la psychanalyse existe, je pense.
Oui, il faut quand même préciser que c'est une création en extérieur, donc dans un bois, en l'occurrence le bois de la Cambre, puisque c'est au théâtre de Poche, et que donc ça recrée un peu cette ambiance à la fois fascinante, mais aussi un petit peu inquiétante. On joue sur tous ces sentiments-là, ces souvenirs.
Alors là, évidemment, c'est l'écrin qui termine le produit, c'est-à-dire que Olivier Blin du théâtre de Poche m'a proposé de m'installer en extérieur. Alors quand on peut jouer en extérieur et à la nuit tombante, en sachant quand même que toute cette histoire se passe régulièrement de nuit, hein, quand il écoute ses parents, quand l'ogre revient. Et donc, quand le public participe à ce changement d'atmosphère, aussi dû à l'environnement, à la nuit qui tombe, les oiseaux qui arrêtent de chanter, plus particulièrement dans le bois de la Cambre, les voitures qui arrêtent de circuler. effectivement, ça crée une atmosphère particulière.
Ouais, et puis, en plus, vous faites participer le public. Il y a des marionnettes, on va en parler des marionnettes, mais il y a des marionnettes notamment qui sont taillées dans des branches de bois et le public doit jouer. Il y a une partie du public qui joue la forêt et l'autre partie qui joue les loups.
Alors, c'est-à-dire que donc les Royal Marionnettes, c'est vraiment une compagnie qui provient du théâtre de rue. Donc c'est une compagnie qui a 80 ans, c'est pas moi qui l'ai fondée évidemment, mais mon prédécesseur a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, par obligation, parce que son théâtre avait été bombardé, donc il se déplaçait avec sa charrette à bras, et il allait jouer dans les abris, où il recevait de bonnes manches. Donc moi, quand j'ai repris la compagnie il y a un peu plus de 30 ans maintenant, elle faisait déjà beaucoup de théâtre de rue. Donc nous, on a fait énormément de théâtre de rue, et dans le théâtre de rue, effectivement, on écrit d'abord pour les familles, parce qu'on vient rarement en théâtre de rue soit seul, enfin en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Et en plus, c'est vrai qu'on a, étant donné qu'on est, on bénéficie pas de l'environnement propice d'une salle où tout est feutré, etc., etc. Ben, on doit essayer de captiver un peu, de faire plus d'efforts pour captiver le public et le maintenir présent et à l'écoute.
Reconquérir son attention.
Exactement.
On en parlait tout
à l'heure, oui. Mais exactement.
Voilà. Et donc ici, effectivement, étant donné que je joue seul et que malgré tout poussé à 6 frères, par exemple, que je décrivais les loups, est venue assez naturellement l'idée de faire participer le public. Okay. Donc c'est très gentil par rapport à ce que je fais d'habitude en théâtre de rue, parce qu'ici c'est pratiquement distribuer des accessoires et des consignes pour les utiliser. Mais ça me permet effectivement de situer les loups dans l'espace, d'avoir un vrai dialogue avec les frères. Ouais. Voilà.
Et puis, ce sont des marionnettes un petit peu particulières. C'est ce qu'on appelle les marionnettes liégeoises.
Ouais.
non, mais encore une fois, la principauté de Liège à l'honneur.
Je ne dis rien. Non. J'ai la victoire humble.
Ouais. Ce sont des marionnettes assez singulières. Hein. Expliquez-nous un peu, parce que ce ne sont pas les classiques.
Alors, c'est-à-dire que les liégeois, à mon avis, ne considèrent plus ça comme de la marionnette liégeoise. Ouais. Parce que, avec le temps, moi, j'ai beaucoup trafiqué la marionnette liégeoise. Déjà, elles sont pas habillées. On ne retrouve pas Tchantché, effectivement. Ouais. Même si mon bûcheron a l'accent liégeois, quand même.
Ah, il faut.
Je l'ai quand même mis ça.
C'est obligé.
Mais donc du coup voilà, moi ici dans le cadre de Pousset, c'est de la marionnette à tringle, mais alors pour les spécialistes et les puristes, la tringle n'est pas fixée au sommet de la tête, mais dans le cou, ce qui me permet d'avoir des mouvements de tête beaucoup plus fins entre guillemets que la marionnette liégeoise qui fait juste ça. Ici elles sont pas habillées non plus, les vêtements sont peints sur le bois. Donc c'est une marionnette, voilà. Alors en plus moi je les ai fait de toute petite taille parce que je voulais que Pousset, adulte qui raconte son histoire, empoigne ses objets presque comme du théâtre d'objets entre guillemets. Voilà, il m'est arrivé ça et qu'il y ait une facilité pour lui de revenir à la marionnette et que ce soit pas un objet très lourd à utiliser qui nécessite toute une structure forte.
Ben c'est un spectacle formidable. Hein. Allez-y, c'est jusqu'au 18 septembre au Théâtre de Poche. Enfin, c'est dans le bois, sous les sapins, juste à côté du Théâtre de Poche. Et on parlait effectivement de l'attention des enfants et qui sont dispersés, cette attention dispersée à travers les écrans. Ben, la reconquête de l'attention, ça passe aussi par ce type de spectacle, parce que je peux dire qu'ils sont captivés de bout en bout.
Voilà, et les adultes aussi.
Oui.
Merci Didier Balzo d'être
venu. Merci à vous.
Nous en parler. Marie-Franquinet, vous allez raconter le petit Pousset à votre...
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra. Peut-être
on va raconter
plus grand.
Voilà, on racontera la version du grand Pousset. Elle fait peut-être un petit peu moins peur. Et évidemment, pas de rentrée sans livre. On en parle avec Michel Dufresne.
Le mug sur la première.
Pas n'importe quel livre, quand même. En l'occurrence, on ne parle pas de nouveautés forcément, mais de réapparition. On parlait de reconquête maintenant, de réapparition, d'inédit de Céline, Michel Dufresne.
Eh oui, alors Céline, vous savez tous, c'est ceci.
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Barmar, on peut avoir une deuxième chance ?
Et très sympathique, Louis-Ferdinand Céline.
Et voilà, mais alors attention, hein, les puristes me rappelleront bien que Louis-Ferdinand Céline, de son vrai nom, docteur Louis-Ferdinand Destouches, n'était pas nazi, tout au plus collabo. Et encore, il y a des nuances, on pourrait revoir l'histoire, et là, la blague d'OSS 117 situe l'action en 55, alors que Céline est amnestie en 51, comme ça, au moins c'est réglé. Donc oui, on parle bien de Céline, homme admirable en tant qu'écrivain, un homme qui a révolutionné la littérature française.